Midi 30, 14h.
La France bouge avec Elisabeth Assayag sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Pendant 60 minutes, on va vous montrer que les Français ont des idées, qu'il y a des hommes, des femmes, de talent qui prennent des initiatives, qui perpétuent des traditions et qui inventent la société de demain. Gros plan aujourd'hui sur un savoir-faire français, l'art du fil, tricot, broderie, dentelle. Comment sur un terrain industriel sinistré émerge un tel savoir-faire français? Nous entendrons des acteurs à l'occasion du salon Aiguille en Fête qui a lieu en ce moment à Paris, porte de Versailles. Elle est le fournisseur des plus grandes tables de France en matière de produits frais. Elle est une maison d'exception depuis 50 ans, c'est Maison Colombe et c'est l'entreprise qui va bien merci. Former des jeunes à s'engager en politique pour leur donner envie de sauter le pas, tous élus, c'est la solution, c'est la France qui bouge et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, ce sont des entreprises françaises qui évoluent dans des secteurs compliqués. Pourtant, la dentelle comme le fil, le tricot gardent la tête haute. Et heureusement, ils n'ont pas dit leur dernier mot, Anissa.
Oui, venez nous dire si vous êtes vous-même adepte du tricot, si vous apprenez de génération en génération, si vous faites de la couture. Venez témoigner, 39-21, c'est le standard d'Europe 1. On lit également vos questions, vos messages et vos témoignages sur Twitter avec le hashtag Europe 1, Elisabeth.
Et pour en parler autour de la table, dans le studio Lagardère, notre coach du jour, Frédéric Mazella, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de Blablacar. Pour nous donner des tas d'autres informations pendant toute l'émission, Paul Lassen, bonjour.
Bonjour.
De la rédaction d'Europe 1. C'est une passion qui se transmet. D'ailleurs, plus d'un Français sur deux a déjà tricoté. Un chiffre qui peut parfois surprendre, hein, au regard des a priori. Hein, on sourit tous dès qu'on dit le mot tricot là dans le studio, je le vois depuis tout à l'heure. Autour de cette activité, bonjour Hugo Camusso.
Bonjour à vous tous, merci pour votre accueil.
Bon, vous êtes le fondateur de Gang des Grands-Mères, c'est une entreprise gardoise. Gang de Grands-Mères, ça a commencé en 2014 parce que vous cherchiez à vous lancer, à lancer des bonnets pour l'hiver. Il faut dire que vous étiez déjà dans le textile, hein. Je crois que vous aviez commercialisé des t-shirts auparavant, donc vous y connaissiez un petit peu. Et donc vous avez lancé Gang de Grands-Mères, c'est quoi ?
Alors Gang de Grand-Mère, comme son nom l'indique, c'est un gang. Plutôt que dire groupe, on a préféré dire gang.
Petite bande.
C'était fun, voilà, c'est une bande. Deux grand-mères qui tricotent pour une marque qui s'appelle du même nom, éponyme Gang de Grand-Mère. Et en fait, on réalise des accessoires de mode tricotés main et en France dans des laines de qualité. Voilà, le concept, c'est qu'on choisit donc son modèle. Ça peut être un bonnet, une écharpe, un nœud papillon. La couleur de son accessoire et enfin la grand-mère qui va nous réaliser l'accessoire.
Donc vous, de votre côté, vous dessinez les modèles.
Effectivement.
Vous apportez la matière première.
Voilà.
Donc française, j'imagine.
De préférence. On travaille avec différents types de laine. Pour certaines laines, on va dire entre 30 et 40% des laines viennent d'Espagne et le reste exclusivement de France.
Et donc Espagne, France et les grand-mères se sont regroupées en association.
Voilà.
Et cette association, je crois qu'elle s'appelle, c'est les Mamies du Gang, c'est ça ?
C'est exactement ça. En fait, on cherchait un business model pour légiférer un peu tout ça.
Pour encadrer.
Voilà, pour encadrer, structurer cette belle démarche, en fait. Et on avait d'un côté des grands-mères qui étaient en recherche d'activité, qui sont passionnées par le tricot. Mais en fait, c'est un vrai budget, en fait, le tricot. Hein. Parce que quand vous achetez les aiguilles d'un côté et que vous voulez tricoter à l'année, la laine, faut aussi la fournir.
L'acheter, voilà. Bien sûr. Et ça, c'est vous, pour votre entreprise, c'est vous qui fournissez tout aux grands-mères.
Exactement. Nous, on fournit le matériel, la laine, et en contrepartie de leur tricot, en fait, on récupère les créations une fois qu'elles sont
les grands-mères ont tricoté.
Exactement.
Et vous les vendez.
On les vend. Entre-temps, il y a une partie de marketing, un peu de branding, hein, puisque nous, derrière, il y a toute une histoire. Ce n'est pas simplement des grands-mères qui tricotent dans leur coin. On essaye d'aller plus loin et de leur proposer, grâce à la revente du tricot, du coup, de pouvoir faire des activités, quoi.
Pour elles. Et bien, justement, nous avons la joie d'avoir en ligne l'une d'entre elles. Bonjour, Christiane Sobrero.
Oui, bonjour.
Alors vous avez 80 ans. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Ça fait 4 ans que vous travaillez pour le Gang des Grands-Mères.
Oui, je pense que ça fait 4 ans.
Alors comment ça se passe ? Déjà, ça vous plaît ?
Ah ben oui, parce que maintenant on a pris l'habitude de tricoter et puis quand on n'en a pas dans les mains, on peut pas s'en passer.
Et alors, vous avez une cadence importante ? Vous tricotez beaucoup de bonnets ? Vous tricotez régulièrement ?
J'ai tricoté assez de bonnets pour me permettre de me payer mes cours de peinture cette année. Donc,
sympa.
Bon, je fais de la peinture entre-temps. Hein, ça m'a permis de financer mes parce que c'est pas donné. Donc, voilà.
Donc, vous tricotez.
Grâce à mon travail.
Voilà, grâce à votre travail, vous tricotez pour pouvoir vous offrir des activités en parallèle.
Tout à fait, voilà. Si c'est pas l'esthétique, moi, c'est la peinture qui me passionne. Donc, je profite de cet apport d'argent pour me payer des cours en plus. Voilà.
Que dit notre coach Frédéric Mazella?
Bah alors, je trouve que c'est une très bonne idée, mais j'ai l'impression que ça a déjà existé un petit peu par avant et que ça n'a pas, ça a pas vraiment grandi. Alors, je voudrais savoir ce qui va faire la différence cette fois-ci. Je parle en termes de start-up et de nouveaux concepts. Hein. Il y a quelque chose qui s'appelait Golden Hook
ouais,
à l'époque.
Mais alors là, on est sur une problématique différente. Golden Hook, de ce que j'ai pu comprendre.
Je ne sais pas de quoi vous parlez. Golden Hook.
En fait, on a un peu repris le flambeau sans le faire exprès par inadvertance. Quand je l'ai lancé en 2014, je crois que c'est Jérémy MCLM qui s'arrêtait en 2013, fin 2013. Pour des raisons qui ne sont pas dues au marché, en fait, parce que...
Pardon, vous parlez d'une autre entreprise ?
Oui, voilà.
Oui, je cherche à connaître l'histoire un petit peu de
Gomme de grand-mère.
De la société, oui, parce qu'en fait, c'est un concept qui est dans l'air.
Et qui a déjà existé.
Qui a déjà existé par le passé.
En fait,
et je voudrais savoir pourquoi, cette fois-ci, ça va marcher.
Alors,
et ça marche, hein ?
Ça marche, mais pourquoi ça va marcher plus loin, quoi ?
Ça marche, on n'a pas le même système, en fait. Hein. Je crois qu'ils travaillent avec des grand-mères en auto-entreprise. Bon, en fait, je ne suis pas là pour comparer les deux système. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que on n'est pas les seuls sur le marché. Aujourd'hui, nous, on s'est ciblé sur l'adulte, clairement. Il y a des gens qui le font très bien, comme Mamie Factory pour l'enfant, qui cartonne du feu de Dieu. Ils ont une boutique sur Paris, je crois. Et donc voilà, on n'est pas là pour marcher sur leur plate-bande ou quoi. Nous, on a trouvé un business model qui, pour l'instant, nous convient. L'idée, c'est de le vérifier. Bon, sur 4 ans, il s'est éprouvé. Après, à voir comment on dit dans le jargon là, de l'échelonner, de le scaler. Voilà, je sais pas, aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires, on va dire, de 10 et on aimerait faire 100, quoi, donc 10 fois plus. Quoi.
Christiane, vous êtes toujours avec nous ?
Je vous écoute.
Vous tricotez aussi pour vos petits-enfants ?
Ah, pas du tout, non, mes petits-enfants, ils sont grands.
C'est uniquement
hein.
Du business, vous travaillez avec des grands-mères.
Je travaille que pour le grand des grands-mères.
Frédéric,
pas plus.
Vous avez
oui,
une question ?
J'ai une autre question par rapport à la saisonnalité, parce que là, on parle quand même
de
vêtements d'hiver, de bonnets ou d'écharpes. Comment on fait ? Est-ce que, par exemple, vos grands-mères tricotent toute l'année pour la période d'hiver, ou est-ce qu'elles s'arrêtent l'été ? Parce que tricoter des bonnets l'été, c'est... Bon, c'est sympa, mais...
Alors ça se fait. En fait, on répond à cette question de la saisonnalité
de bain, en laine.
En diversifiant notre offre. Aujourd'hui, on a des chapeaux avec une garniture interchangeable qui a été crochetée à la main. Donc en fait, la partie qui vient habiller le chapeau, on travaille avec une entreprise classée EPV qui fabrique des chapeaux en France.
Entreprise du patrimoine vivant.
Exactement. Donc c'est une des dernières entreprises à mettre en forme, à couper, à coudre le chapeau dans le Tarn-et-Garonne. Et ensuite, nous, on vient faire la garniture. Donc, par exemple, ça, c'est un produit qui va faire le pendant au bonnet pour l'été. Mais on développe aussi d'autres produits. Là, on travaille sur une gamme de t-shirts avec l'entreprise Le Mailleux.
Donc, vous êtes en train de vous diversifier avec d'autres entreprises.
Effectivement. En fait, Gang de Grand-Mère, c'est une marque assez forte et qui parle
qui vous permet
à tout le monde
d'aller chercher d'autres fournisseurs pour d'autres produits.
D'autres fournisseurs, d'autres marchés, pas forcément tricotés ou cousus par les grand-mères. Nous, au-delà de cet aspect où c'est fait par la grand-mère, il y a aussi ce côté où on rétribue une association. Donc, tous nos produits sont sociaux et solidaires et on s'engage à reverser entre 5 et 10% selon les produits du prix de vente.
Combien coûte un bonnet chez vous ?
Pour un bonnet fait main, ça démarre à 69 euros pour un bonnet fait main. Et on a une autre marque, Le Bonnet Français, qui, elle, est une...
Un peu premium ?
Alors, la marque premium, on va être sur Gang de Grand-Mère. C'est
d'accord.
De 69 euros jusqu'à 180 euros pour un bonnet. Mais vous avez aussi la marque Le Bonnet Français qui est là et fabriquée machine par des métiers plus classiques, on va dire. Mais toujours dans le respect du savoir-faire et de l'emploi français, où là, on peut sortir des plus grosses quantités. On est sur un prix deux fois moins cher, donc à 35 euros.
Christiane, vous arrivez à recueillir en moyenne combien par mois ? En plus.
Alors là, je compte pas. Ah, ouais. Pas du tout, je compte pas.
Si je peux me permettre.
Oui,
chaque grand-mère. Ça va, Christiane ?
Oui, ça va, je couche au soleil.
Eh ben tant mieux, t'as bien raison de profiter du soleil du sud. Ici, il y a beaucoup de vent. Voilà, en fait, on a plusieurs profils de tricoteuses. Chacune a un projet de vie. Et vous savez, quand on arrive à un certain âge, on n'est pas là pour se prendre la tête, quoi. On a envie de se faire plaisir aux autres. Et je pense que c'est ça, le gang de grand-mère, les mamies du gang. C'est des... Tu me dis, tu t'es en train de parler, Christiane, excuse-moi.
J'ai dit tout à fait.
Voilà. Et en fait, on a différentes typologies de grand-mères. Il y en a qui veulent, par exemple, financer leur cours de peinture. D'autres, ça va être faire une formation. Ça peut être un voyage, un projet de voyage. Donc en fait, comme il n'y a pas vraiment... elles n'ont pas de quota, quoi. Elles tricotent comme elles veulent. C'est si elles ont envie de se payer le voyage de leur vie...
Elles vont tricoter davantage que d'autres.
Exactement. Mais il y en a, elles sont passionnées de tricot et limite, elles veulent pas de... Enfin voilà, donc on est vraiment sur plein de cas de figure.
C'est très ouvert et ça permet de créer aussi du lien intergénérationnel. Merci beaucoup en tout cas, Christiane, d'avoir été en ligne avec nous. On vous embrasse fort.
Moi aussi.
Merci et bon tricot et bon cours de peinture.
Merci beaucoup.
Ça s'appelle... Bonne journée. Ça s'appelle Gang de Grand-Mère. Merci Hugo Camusso. Vous restez avec nous. Il est 13h11.
Europe 1, Elisabeth Assayer.
On va continuer à parler tricot, mais aussi dentelle broderie avec une entreprise qui fournit les plus grandes maisons en matière de dentelle. Ça s'appelle Sophie Allette. Son PDG est avec nous. La France bouge tous les jours sur Europe 1 entre 13h et 14h avec Elisabeth Assayag et ses invités. Elisabeth, aujourd'hui, vous nous faites découvrir les arts du fil. Comment le savoir-faire français se renouvelle en matière de couture, de tricot, de dentelle? Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. 39-21, c'est le standard d'Europe 1. Hashtag Europe 1, ça c'est pour vos messages sur Twitter.
Vous l'avez sûrement en tête, 1 milliard de téléspectateurs ont pu admirer en 2011 la dentelle de la robe de mariée de Kate Middleton. Bonjour Romain Lécroire.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de la maison de tulle et de dentelle, Sophie Allette. Vous la dirigez depuis 2013. C'est une maison créée en 1887 à Caudry, dans le Nord. Vous êtes donc la troisième génération?
Tout à fait, c'est ça. À Caudry, dans les Hauts-de-France, nous avons ma famille, en 1942, repris l'entreprise à la veuve épouse du fondateur Eugène Allette. Effectivement, société fondée en 1887. Notre nom n'apparaît pas.
Vous avez conservé le nom Allette.
On est complètement dans l'histoire de l'ADN de la maison depuis son origine et très très attaché à cette origine et cette histoire.
Oui. Alors vous êtes une référence internationale, hein. Vous êtes l'art de la dentelle, hein, du tulle français. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'avec votre savoir-faire, avec vos dentelles, avec vos tulles, on est totalement à l'opposé du monde industriel et automatisé.
Oui, on est à l'opposé, on est à côté, on est au-dessus sans arrogance. On a notre espace, effectivement, de vie, d'écosystème. Et depuis des années et des années, bien que les cycles de la mode connaissent des variations, hein, depuis toujours. Mon grand-père, je me souviens, hésitait à faire travailler mon père dans la maison à l'époque, dans les années 60, parce que justement, il y avait à un moment donné peut-être un désamour passager du produit. Et donc, on prend du recul par rapport à ces phénomènes. Et oui, depuis toutes ces années, hein, 130 ans passés, on continue d'évoluer, de trouver notre espace.
Mais vous gardez votre espace et avec des métiers bien spécifiques qui sont rigoureusement les mêmes depuis des siècles, avec des machines aussi. Vous ne vous êtes pas perdu ailleurs, vous êtes resté dans ce que vous saviez faire.
Alors c'est un savoir-faire particulier, la dentelle Leavers, hein, puisque notre existence dépend d'un savoir-faire technique qui tient à une machine en réalité, qui a été conçue au 19e siècle.
Une machine de 15 tonnes de fond, c'est ça ?
Machine de 15 tonnes de fond. Donc on est dans le tissage mécanique et c'est effectivement un coup d'accordéon avec le temps assez déroutant pour beaucoup, qui s'explique par la technicité de cette machine, le fait que le marché de la dentelle soit un marché de niche. De toute façon, c'est un marché en termes de volume qui n'est pas infini et qui est cyclique. Et effectivement, ces machines étant indestructibles, une fois qu'on en détient le savoir-faire, eh bien, même si elle ne se fabrique plus depuis les années 60, on continue de pouvoir exploiter et embellir les femmes, hein, puisque c'est ça notre...
Et vous fournissez de très grandes maisons,
hein. Oui, alors on fournit effectivement, je pense, l'intégralité des plus grandes maisons que ce monde connaît, et avec beaucoup de fierté et de plaisir. Et on est dans l'ombre de celle-ci aussi, bien souvent, avec plaisir. On reste à notre place. On aimerait parfois pouvoir partager un petit peu plus les projecteurs, mais bon, que voulez-vous ? Il faut laisser aux stars.
Ah, mais ça
se soucie,
hein, parce que vous avez eu énormément de stars qui ont porté vos dentelles. Que dit notre coach Frédéric Mazella ?
Moi, je suis assez curieux de savoir comment s'est passé le coup de fil La rencontre pour arriver jusqu'à habiller Kate Middleton.
Ah, alors, on travaille avec Alexander McQueen de manière générale.
Qui avait donc conçu la robe de mariée de Kate
Middleton.
Voilà,
Sarah Burton qui avait conçu la robe pour Alexander McQueen. Effectivement, on travaillait avec eux régulièrement. Donc, c'était déjà une chance d'être sélectionné, sans doute plus que d'autres, peut-être. Et ensuite, figurez-vous, malheureusement, la réponse est bien peut-être décevante. C'est qu'on n'a pas été informé. Avant.
Mais vous l'aviez su en regardant
nous
la télévision.
Nous l'avons su qu'après. Quand vous me parlez de coup de fil, j'ai envie de vous dire, bah oui, c'est le coup de fil que j'ai reçu quand je descendais de l'avion, alors que le mariage était en train d'avoir lieu, où j'avais 40 messages de personnes qui étaient en train de me dire qu'effectivement la révélation venait de tomber et que c'était bien notre dentelle qui était sur Kate Middleton. Et moi-même, je ne regardais pas la télé à ce moment-là d'ailleurs.
Alors vous existez, on l'a dit, depuis 1887. Paul, je me tourne vers vous. Aujourd'hui, les entreprises de la dentelle, il y en a encore beaucoup en France.
En tout, le marché de la dentelle aujourd'hui, ça représente environ 50 entreprises, plus de 2000 salariés. Un chiffre d'affaires quand même assez conséquent, 150 millions d'euros par an. Aujourd'hui, il y a deux régions historiques qui continuent à accueillir ces entreprises qui font de la dentelle. Le Nord-Pas-de-Calais, on en parlait avec vous. Et la Haute-Loire qui compte une dizaine d'entreprises, ce qui fait à peu près une centaine de salariés dans la région. Et surtout, cette industrie, il faut savoir qu'elle représente plus d'une centaine de métiers différents.
Alors, et vous exportez aussi plus de 85% de votre chiffre d'affaires.
Oui, tout à fait. Oui. Et ça, c'est depuis toujours. Et à travers nos clients européens, puisque la filière du luxe est quand même très puissante en Europe, et c'est la référence mondiale incontournable et inimitable, et elle exporte à nouveau. Donc le chiffre d'affaires qu'on réalise en France est bien souvent réexporté également. Donc le taux peut être encore supérieur à ça.
Plus important.
Voilà, parce que cette dentelle qu'on fabrique et qu'on propose, elle n'existe nulle part ailleurs, en réalité.
Elle est unique.
Elle n'existe nulle part ailleurs. Elle est peut-être unique. Enfin, en tout cas, elle est diverse, puisqu'on a des dizaines de milliers de dessins, des dizaines de milliers d'articles, des dizaines de machines, des centaines, voire. Donc voilà, la gamme est infinie également.
Ouais. Et alors, en 2016, vous êtes rentré dans l'ère du numérique parce que vous avez ouvert votre boutique en ligne, Sophie Alette Store. J'ai même fait un petit tour sur Instagram. Vous avez plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Vous êtes très présent. Vous avez donc su prendre aussi le virage du numérique, tout en alliant un savoir-faire très traditionnel.
Bah oui, chaque génération arrive avec son temps présent. Et on veut absolument maintenir cette entreprise, garder cette fidélité à ce passé et cette histoire dont on est aussi fier. Et en même temps, d'être dans la modernité, effectivement, dans les outils, l'infrastructure de production. On a investi dans un bâtiment récemment. Et puis aussi, bien sûr, les nouveaux médias. Et Instagram, les réseaux sociaux, c'en est un. Et le magasin en ligne, ça complète en réalité notre showroom parisien qui existe depuis déjà des dizaines d'années également et qui sert une clientèle de particuliers comme de petits professionnels qui ont besoin de pouvoir acheter le produit. Internet est un outil comme un autre aujourd'hui et ça fonctionne assez bien.
Vous savez utiliser. Alors, vous nous avez apporté de la dentelle, vous nous avez apporté un outil très, très particulier. Vous pouvez nous le décrire?
Oui, je vous ai apporté le symbole de la dentelle Lever. C'est à la fois son emblème.
Ça s'appelle comment?
Le chariot et la bobine. En fait, il y a deux instruments dans cet objet. Vous avez un chariot qui est le contenant, qui voyage à travers le métier. Il y a 5500 chariots comme celui-ci qui sont dans un métier divers au moment où il fonctionne. Et à l'intérieur de chaque chariot, vous remarquerez une bobine qui tourne et qui délivre un fil en réalité. Donc au cœur de la nappe de fil de la dentelle, vous avez ce fil de bobine qui vient en fait fermer et sécuriser le tissage, ce qui fait qu'on a une transparence très, très élevé et en même temps une solidité remarquable. Là, c'est la particularité du Livers.
Et c'est magnifique parce que quand on touche cette dentelle, hein, j'ai la chance de pouvoir la toucher, là c'est extrêmement doux, c'est très agréable. Ça s'appelle la maison Sophie Alette. Restez avec nous, Romain Lécroix.
Il est 13h20.
Europe 1, Elisabeth Assayag.
Direction la Creuse, nous allons découvrir l'une des dernières filatures à fabriquer des pelotes à partir de laine de mouton, de chèvre et d'alpaga. C'est l'entreprise Fonti.
Jusqu'à 14h sur Europe 1, la France bouge avec Elisabeth Assayag et ses invités. Nous découvrons les arts du fil, comment le savoir-faire français se renouvelle dans de nombreux domaines, la couture, le tricot, la dentelle. Et tout ça, c'est à l'occasion d'Aiguille, en fait, qui se tient jusqu'au 10 mars, un grand salon que de nombreux auditeurs connaissent. Vous êtes nombreux à témoigner au 3921 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1 Elisabeth.
C'est une vieille dame qui se trouve près du Massif Central, une terre traditionnelle d'élevage et d'industrie textile. Elle existe depuis la fin du XVIIIe siècle. Bonjour Benoît de la Rosière.
Bonjour Elisabeth Assayer.
Vous êtes le PDG de la filature Fonti. Aujourd'hui, on peut dire que Fonti, c'est une sorte de miraculé.
Oui, c'est une miraculée, alors, parce que c'est une des dernières survivantes du désastre industriel du textile français et de la laine en particulier.
Des années 80, 90.
Des années 80. Il y a un chiffre qui est assez révélateur. Il y avait plus de 100 filatures françaises de laine en 1980. Il y en avait une vingtaine au début des années 2000. Et aujourd'hui, il y en a peut-être 4 ou 5 qui sont encore en
état
d'activité.
Tout était parti en Chine et en Turquie.
Tout est parti d'abord dans les pays de l'Est, ensuite en Chine, en Turquie et un peu dans les pays du Maghreb.
Alors aujourd'hui, 22 salariés et vous avez créé une industrie de niche. Hein, c'est la laine de grande qualité, fabriquée en France et écologique.
Alors je ne vais pas prétendre l'avoir créée, cette niche. Elle existe.
Mais vous la faites vivre.
Nous essayons de la faire vivre et de vivre avec. C'est-à-dire que nous avons fait le choix résolument de renoncer à toutes les matières synthétiques, laissant ça à des grands industriels de l'étranger, et de nous focaliser uniquement sur des très belles laines et très belles matières, en essayant en même temps de respecter le plus possible nos convictions éthiques, environnementales et sociales.
Donc chaque année, 50 à 60 tonnes de laine que vous produisez. Votre chiffre d'affaires est de 1,5 million d'euros. Comment avez-vous fait ? Parce qu'à chaque fois, elle était sur le point de fermer, il y a eu ça a été sinistré. Comment vous avez fait pour tenir et pour voilà, on peut les voir sur europe1.fr, c'est absolument magnifique, ces couleurs sont sublimes.
Alors d'abord, c'est une longue chaîne de savoir-faire qui s'est transmise depuis maintenant un siècle et demi. Moi, j'ai hérité de cette entreprise, entre guillemets, parce que je l'ai reprise il y a 2 ans, auprès d'une équipe qui existait déjà, d'un dirigeant qui était très axé sur l'écologie. Et moi, j'essaye de donner mes valeurs en plus de celles qu'il a insufflées à l'époque. Et en particulier, ce que j'essaye de mettre dans cette entreprise, c'est de la confiance dans l'avenir. L'idée qu'on peut faire perdurer cette entreprise grâce à ses savoir-faire, en les transmettant. Et le fait qu'il faut être absolument présent sur les marchés avec les nouveaux médias.
Donc, c'est ce que vous avez fait.
C'est ce qu'on a fait. On a ouvert un site internet récemment qui montre un peu mieux ce que nous faisons. Et puis, depuis quelques semaines maintenant, nous essayons d'être présents sur Instagram avec un certain succès. Je suis moi-même assez déconcerté par le nombre de followers que nous avons. c'est dire que nous avions du succès dormant.
Frédéric Mazzella.
Oui, j'ai une question par rapport à justement... alors, je trouve très, très bien et admirable la volonté de se positionner et d'agir pour une laine, on va dire, plus responsable. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais en tout cas, plus écologique.
Une laine écologique. Oui.
Et justement, quels sont les grands chiffres ? Parce qu'on entend beaucoup, beaucoup de choses autour du textile. Hein, parce que le textile, moi, j'ai quelque chose que j'ai entendu dernièrement, mais notamment que il y a un vêtement sur deux qui est produit, qui n'est jamais porté, ou des choses comme ça. Et qu'en plus, c'est un taux d'émission de gaz à effet de serre très très fort de la part de toute l'industrie du textile. Enfin, je voulais savoir quels sont les chiffres que vous connaissez et justement peut-être l'impact que vous arrivez à apporter dans ce secteur-là.
Alors Frédéric, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir vous répondre parce que je ne suis pas un spécialiste du textile. En fait, je suis tombé dedans il y a 2 ans, donc je n'ai malheureusement pas tous ces chiffres. Ce que je peux vous dire, c'est ce que nous essayons de faire avec nos moyens. Et en toute transparence, nous ne sommes pas parfaits, nous essayons de faire le mieux possible avec ce que nous avons. Par exemple, dans la filature Fonti, nous avons la chance d'avoir une station d'épuration d'eau écologique.
Parce que, il faut le préciser, hein, vous faites aussi, vous êtes spécialisé dans la laine naturelle, mais aussi dans un laboratoire de recherche pour enrichir vos nuanciers. Et c'est ce qu'on peut voir sur europe1.fr. Il y a des couleurs absolument magnifiques. Et c'est à partir de là que vous avez décidé donc de faire un traitement d'épuration naturelle, c'est ça ?
Voilà, mon prédécesseur s'est trouvé confronté à des questions d'environnement. C'est-à-dire que les volumes qui étaient traités en teinture...
Donc pour la teinture, spécifiquement.
Pour la teinture, faisaient que les rejets d'eau polluée étaient trop importants pour être admissibles.
Alors comment faites-vous avec le traitement de rejets des produits de peinture ?
Alors on récupère toutes les autres teintures et on les dépollue dans des bacs de décantation où il y a des rhizomes de bambou qui ont la particularité naturelle d'absorber tous les résidus de teinture à travers des radicelles.
Et donc ça fonctionne.
Et on fixe. Voilà, on fixe tous les résidus.
Paul, je me tourne vers vous, on en parlait tout à l'heure. Les entreprises de filature, il y en a encore, mais il y en a très très peu.
Oui, absolument, il n'en reste que 5 entreprises de filature industrielle en France. La vôtre, la filature du Parc, la filature Terrade, la filature Pierre Deloye et la filature Bergère de France, contre une vingtaine dans les années 2000 et une centaine dans les années 80. C'est un secteur en crise qui, à cause de la crise du textile qui a commencé dans les années 80. Et le fait que vous en parliez tout à l'heure, que tout le monde s'est déplacé vers la Chine, la Turquie, parce que ça coûtait moins cher.
Absolument. Et vous m'auriez interrogé il y a 6 mois, il y en avait 2 de plus qui ont fermé cet été. Peut-être l'une d'entre elles va renaître.
Laquelle ?
La filature du Val-Gaudemar, pardon, dans les Alpes, qui est un très bel outil, qui nous ressemble beaucoup d'ailleurs, qui est à peu près une taille comparable à la nôtre, et qui faisait des produits relativement similaires aux nôtres. Donc j'espère que le repreneur qui vient de reprendre cette filature va relancer l'activité.
On reste ensemble, on continue à parler de nos pépites françaises autour de la broderie, du tricot et de la dentelle, Anissa.
Il est 13h28.
Europe 1, Elisabeth Assayag.
39-21, venez, on vous attend, vos témoignages, vos questions, nos invités sont là pour vous répondre et pour échanger. Avec vous, à tout de suite.
Se tient jusqu'au 10 mars le salon Aiguille en fête. Et pour cette occasion, nous découvrons les arts du fil. Aujourd'hui, c'est la France qui bouge jusqu'à 14h avec Elisabeth Assayag et ses invités. Le tricot, la couture, la dentelle, comment le savoir-faire français se renouvelle? Eh bien, il y a des réponses grâce à vos invités aujourd'hui. Et vous pouvez poser toutes vos questions dès maintenant. 39-21, le standard d'Europe 1. Et hashtag Europe 1, ça c'est pour Twitter, Elisabeth.
Et oui, nous sommes toujours avec le coach du jour, Frédéric Mazella, fondateur de Blablacar, Paul Lassen de la rédaction d'Europe 1 et avec nous pour en parler, Romain Lécroir, le PDG de la maison Sophie Allette, Hugo Camusso, le fondateur de la marque du gang des grands-mères et Benoît de la Rosière, le PDG de la filature Fonti. Je m'adresse à vous trois, hein, on l'a vu, hein, vous êtes tous les trois, donc vous êtes accessibles sur Internet. Finalement, est-ce que ce n'est pas un beau pied de nez à la mondialisation que de pouvoir être, on peut accéder à vous facilement et vous continuez à survivre dans ce secteur sinistré? Qui veut répondre?
Peut-être je peux vous donner mon avis.
Oui,
nous, on a une chance d'être dans un pays extrêmement isolé, la Creuse, on parle bien du fin fond de la Creuse. C'est un pays d'élevage, c'est un pays de petits commerces, mais c'est plutôt un pays sinistré du point de vue économique. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'une de nos forces aujourd'hui, dans notre communication, c'est justement de parler de la Creuse. C'est-à-dire que nos clients aiment le fait que nous soyons français,
donc
creusois.
Le local.
Voilà, le local.
Et quand il est mis en avant,
c'est une de nos forces. Alors, c'est tout à fait. Comment dire, ce n'est pas calculé. C'est un fait. Mais on aime beaucoup. Les gens viennent visiter la filature. Et je dis souvent, cette filature, elle fait partie du patrimoine du village, de la commune. Elle fait partie du patrimoine régional. Elle fait partie du patrimoine français industriel. Et donc, d'ailleurs, elle est ouverte à tout le monde. Et d'ailleurs, mon prédécesseur, quand il avait créé la nouvelle marque, Fonti, avait changé de logo. Il avait écrit en dessous Made in Creuse.
Ah ben voilà.
Voilà.
Manissa, je crois qu'on a reçu des messages.
Oui, on a beaucoup de messages. C'est une émission qui vous fait réagir. Il y a Louise qui nous a appelé. Elle nous écoute en Gironde. Elle a 31 ans, Louise. Et elle dit, pour moi, la couture est de plus en plus à la mode. J'ai un blog. De plus en plus de personnes commencent la couture. J'ai aussi écrit un livre. Je donne des cours de couture. Les personnes le font pour elles, pour faire des cadeaux, pour se créer des vêtements personnalisés, uniques et sur mesure. Beaucoup de couturières ont aussi une démarche éthique. Et puis, il y a Marion. Et vous allez voir que c'est exactement dans le même esprit que Louise. Le message de Marion sur Twitter avec le hashtag Europe 1. La broderie et le tricot se transmettent dans ma famille depuis plusieurs générations. C'est créatif, reposant et pas du tout ringard ni réservé aux vieilles dames. Donc nous avons de jeunes auditrices aujourd'hui qui nous écrivent.
Et oui, d'ailleurs Paul, je crois que le tricot, je crois que vous faites du bien Hugo Camusso, parce que le tricot aurait des vertus psychologiques. On parle même de tricothérapie, Paul.
Oui, ça pourrait même être le meilleur anti-stress du monde.
Vous la vous marque rendez compte
Peace.
J'étais au courant.
La marque Peace and Wool a par exemple publié un livre en 2016, Tricothérapie, le tricot et le nouveau yoga. Et en février 2013, c'est un peu plus ancien, une étude publiée dans le British Journal of Occupational Therapy a révélé les résultats d'un sondage en ligne mené auprès de plus de 3000 tricoteurs, principalement des femmes. Alors avant de tricoter, 34% des participants se disaient heureux, 43% neutres et 23% tristes. Et après la séance, seulement 1% continuait à être triste.
Ça fait du bien.
Ça fait du bien et 80% se définissaient très heureux. Alors, si vous avez un petit coup de blues, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Alors, il y a un effet de transmission générationnelle, mais comment on vous fait pour attirer les jeunes dans tous vos métiers, qui sont donc des métiers de savoir-faire, des métiers où il faut avoir une technique particulière Alors,
je dirais les jeunes, ils sont de toute façon curieux et intéressés par les métiers qui ont du sens et qui ont peut-être une histoire à raconter aussi. Ils ont d'un côté une attirance pour les nouvelles technologies et la modernité, peut-être à l'image de ce qu'une start-up comme Blablacar, peut représenter. Et ils ont certainement envie de ça, de cette aspiration. Et en même temps, je pense qu'ils sont un peu las aussi d'une mondialisation débridée. Je pense que l'ère du temps, il est aussi un retour au sens et aux valeurs. Et donc, des sociétés comme les nôtres constatent un accroissement des candidatures, que ce soit dans la province. Effectivement, on n'est peut-être pas au fond de la Creuse, mais on est au sud des Hauts-de-France, en ce qui nous concerne, et on est aussi loin de grandes métropoles. Et malgré tout, les gens sont prêts à faire de la distance.
Il y a une envie, une curiosité.
Oui, oui, ils ont envie de participer à une aventure. Oui.
Frédéric ?
Oui, je pense que de toute manière, au fur et à mesure des émissions, on le voit à chaque fois, mais en France, il y a un vivier incroyable.
Il y a plein de
sociétés qui ont un grand potentiel et qui l'exploitent dans le luxe. C'est-à-dire que on a un savoir-faire extrêmement fort. Et donc, ma question, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que comment on fait pour que, justement, cette spécificité de la France qui est le luxe, notamment avec le savoir-faire, eh bien, puisse s'étendre complètement international. Alors, je ne sais pas comment, si vous avez, vous, des concurrents internationaux qui ont ce niveau de qualité et de luxe, ou bien si vous êtes positionné comme l'acteur chacun qui est le plus à même de faire de la grande qualité. Mais dans tous les cas, est-ce que vous sentez que vous avez un potentiel, y compris avec d'autres marchés, d'aller vendre votre luxe partout dans le monde, pour justement, parce que ça, du coup, ça crée beaucoup d'emplois en France, si vous arrivez à aller chercher le marché véritablement totalement international.
Alors, qui répond ? Romain Lécroix.
Ok. En ce qui nous concerne, on a effectivement une clientèle qui est mondialisée et on produit en France. C'est vrai que c'est un peu étonnant par les temps qui courent. Et c'est parfois pas facile, évidemment. C'est déjà eu des problèmes géopolitiques, les problèmes divers se posent dans ce cas-là. C'est à la fois une conquête du monde et en même temps, ce sont des étapes aussi. C'est-à-dire, selon les désirs et les desiderata de la mode, il peut y avoir des périodes où effectivement la demande est supérieure à d'autres. En ce qui concerne les produits qu'on fabrique, effectivement c'est inimitable parce que c'est le fruit de 130 ans d'histoire et un savoir-faire particulier extrêmement conservé avec soin. Donc on peut pas dupliquer le modèle non plus. C'est donc effectivement.
Ah non, mais je parlais bien de produire en France, oui. Mais d'accroître les débouchés.
Accroître les débouchés malheureusement par le prix. Volume reste limité et je suis le premier conscient qu'on est sur un marché de niche. On a beaucoup de clients, hein, le nombre de clients est élevé.
Oui, il y a beaucoup de marques de luxe qui vendent énormément justement dans d'autres marchés, que ce soit au Japon ou même Chine, qui sont des marchés gigantesques. Et quand ils arrivent à aller vendre leurs produits de luxe sur ces marchés-là, c'est un aspirateur incroyable.
Oui, c'est des produits finis. Voilà. Ce sont des produits finis. Effectivement, avec la puissance d'une marque mondiale extrême. Donc on est plutôt sur une spécialité. Effectivement, on a vraiment une approche d'artisan. On est des artisans.
Finalement. La Rosière, vous voulez ajouter ?
Oui, pour compléter ce qui vient d'être dit, je crois que la marque France se vend très bien.
C'est ce qu'on voit à chaque émission. Hein.
Ce que nous faisons, nous, est quand même très local. Et je vois depuis 3 ans, on est passé de quasiment rien en chiffre d'affaires à l'export à pas loin de 25 à 30% cette année, avec en particulier des surprises. En ce moment, la Russie achète de la laine Fonti à tour de bras. Il y a 2 ou 3 qualités de laine Fonti qui sont plébiscitées par les Russes, les tricoteuses russes. Et si vous allez d'ailleurs sur notre hashtag, vous verrez, tout est en russe en ce moment.
Les Russes vous recherchent. Pour terminer, je vais vous poser la question à Hugo Camusso. C'est quoi la suite pour le gang des grands-mères ?
Alors déjà, moi, j'aimerais rebondir sur ce qu'il dit. Là, les Russes, il faut s'en méfier quand même. Parce qu'ils font une veille concurrentielle, j'ai remarqué. Et là, ils viennent de sortir... Granny's, Grandma, je sais pas quoi. Bon, bref, c'est un peu le même.
Il vous copie un peu.
Non, mais il n'y a pas de copieur. Je veux dire, chacun fait ce qu'il veut, là où il est. Et c'est ça qui est bien.
Alors,
on parlait un peu d'export. Nous, c'est sûr que la saisonnalité d'hiver, vous prenez l'hémisphère nord, que ce soit au Canada ou dans les pays comme la Suède, la Finlande, même des pays plus proches comme la Belgique, le Royaume-Uni, c'est des débouchés intéressants. On vend de plus en plus, même aux États-Unis. ce qui est un peu compliqué d'ailleurs en termes de douane et tout, parce que enfin les quand vous exportez aux États-Unis, il y a des enfin souvent des soucis quoi. Alors qu'en France, on accueille désolé mais plein de merde qui viennent d'ailleurs quoi. Voilà pour être voilà.
Donc la suite, vous allez rester telle quelle, vous allez vous développer.
Excusez-moi, donc pour rebondir sur ce que vous disiez, nous le but c'est d'avoir de plus en plus de grand-mères qui tricotent pour la marque, bien sûr.
Et de pouvoir vous diversifier, les grands-pères aussi.
Pourquoi pas, on n'est pas encore sur ce créneau-là.
Pourquoi pas.
Mais par contre, bah voilà, on a rencontré des acteurs aujourd'hui intéressants. Moi, l'Hélène Fonty, je la connaissais même d'avant la reprise par ce monsieur très intéressant.
Et Benoît Larosière.
Voilà, et je pense que voilà, sur certains produits, on va pouvoir bosser ensemble. Il y a un effet de synergie bah
alors,
entre les produits finis et les
fournisseurs. C'est aussi l'objectif de notre émission, que vous puissiez vous parler, pourquoi pas créer des ponts ensemble. On l'a vu avec vous pendant cette émission que ces métiers anciens qui nécessitent un savoir-faire particulier continuent de vivre et de s'en sortir malgré la mondialisation. Vous êtes des entreprises qui emploient, qui innovent, vous faites travailler les plus anciens. Alors merci à vous trois d'être venus nous en parler sur Europe 1.
Il est 13h40.
Europe 1, Elisabeth Assayag.
Elle existe depuis 50 ans. Elle fournit les grands hôtels et les plus grandes tables françaises. C'est Maison Colomb et c'est l'entreprise qui va bien, merci.
Et jusqu'à 14h, la France bouge avec Elisabeth Assayag et ses invités. Et il est temps, Elisabeth, de découvrir l'entreprise qui va bien. C'est une entreprise qu'on peut croiser dans les plus grands hôtels français.
Mais oui, parce que depuis 1955, cette maison régalait les Parisiens du très chic 16e arrondissement de Paris. Et 50 ans après, eh bien, elle est le fournisseur officiel des plus belles tables de notre pays. Bonjour Yannick Cohen.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes le président de la maison Colomb. Colomb, ça veut dire quoi? C-O-L-O-M.
Oui, maison Colomb. Colomb était un monsieur, monsieur Colomb.
Ah, monsieur Colomb.
Voilà, un Mallorquin, enfin un Espagnol d'origine de l'île de Majorque qui a émigré en France il y a une soixantaine d'années. Et qui était un agriculteur en Espagne et qui a monté cette très jolie épicerie fine qu'on a connue il y a quelques temps, avenue Victor Hugo, et qui s'appelait Maison Colomb. Donc il a bien donné son nom à l'entreprise que j'ai rachetée il y a une dizaine d'années.
Alors voilà, donc ouais. Vous l'avez racheté il y a une dizaine d'années. C'est un monsieur qui se fournissait à Rungis, qui vendait des produits raffinés. Vous la connaissiez déjà, vous la connaissiez de réputation?
Tout à fait, en tant que client, j'étais un très bon client de cette très belle épicerie.
Et en parallèle, vous aviez créé un commerce d'épicerie fine un peu plus loin, toujours dans l'Ouest, à Levallois, dans Perret, dans les Hauts-de-Seine.
Tout à fait. Donc j'ai créé cette entreprise en 2006, qui s'appelle toujours d'ailleurs la ferme de Levallois. En 2007, au début 2007, mi-2007, on me parle de cette maison Colomb qui est à vendre, car le propriétaire, après de longues années, de belles années, à diriger cette jolie épicerie fine de quartier, souhaitait prendre un peu de bon temps avec sa famille et donc céder son entreprise.
Et vous l'avez rachetée.
Et voilà, c'est à ce moment-là on est venu me proposer cette affaire. Moi, en tant que client adorateur de ces produits d'exception, j'ai dit oui, bien sûr, je vais me positionner, je vais regarder. Ce n'était pas trop le créneau forcément sur lequel je souhaitais aller. Mais en allant un peu plus loin dans les chiffres et en regardant ce que la maison Colomb faisait, mis à part évidemment la vente de produits au détail d'épicerie fine, elle avait une toute petite activité vraiment très légère,
ouais.
Voilà, minuscule en termes de distribution de fruits et légumes, on va dire même de fruits de niche pour certains établissements prestigieux que nous connaissons sur Paris, qui étaient des grands palaces. Il y avait 5-6 grands palaces parisiens qui s'approvisionnaient...
Exclusivement chez lui?
Pas exclusivement, non, non. Voilà, vraiment de manière très sporadique sur certains produits. Mais malgré tout, moi, quand j'ai regardé cette entreprise et ce nom, je me suis tout de suite intéressé à cette entreprise en me disant, effectivement, c'est un créneau sur lequel je souhaite me positionner et je souhaite... moi, être le fournisseur de ces grandes tables-là.
C'est ça. Donc, vous avez vu des petits chiffres qui vous vous êtes dit, tiens, là, il fournit des grands hôtels. Moi, je vais développer mon activité essentiellement là-dessus.
Pour vous dire la vérité, ça a duré 10 secondes. J'étais dans la cave de cette épicerie fine et je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir bien en faire? Et en regardant ces chiffres et en regardant ces quelques beaux établissements dont la maison Colomb servait quelques belles framboises, quelques belles fraises, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, moi. C'est ça que je veux faire. L'épicerie, c'est très bien, mais c'est finalement... cette partie de l'activité de la Maison Colomb que je souhaite développer. C'est comme ça que ça a commencé.
Frédéric Mazella.
Alors, moi, j'ai une question. On parle de fruits et légumes d'exception. Je voudrais savoir ce que c'est, en fait. Ça ressemble à quoi ?
Alors, je vais vous expliquer. Quand je me positionne et qu'on me dit « qu'est-ce que tu fais ?», je dis « oui, effectivement, je suis fournisseur, je suis distributeur de fruits et légumes avec un positionnement haut de gamme ». Alors, qu'est-ce que c'est le haut de gamme dans notre métier ? On ne vend pas de bijoux, on ne vend pas de diamants. Le haut de gamme, c'est, pour moi, l'image du haut de gamme dans les fruits et légumes, c'est d'abord une sélection de produits. Donc, la sélection de produits, et je vous parle en tant que consommateur averti et qui suis... passionné par les bons produits, c'est un produit qui a du goût. Donc, ça paraît quelque chose de très simple, avoir un produit qui a du goût. Mais on s'en rend compte de plus en plus quand on consomme.
Donc, vous êtes allé tester, vous avez goûté.
Ah oui.
Pas forcément bio.
Pas forcément bio. Avant tout, ce que je mets en avant et mon raisonnement, c'est de dire la transmission des bons produits. C'est avant tout l'image que je souhaite donner à mon entreprise. C'est mettre en avant le produit, mettre en avant la saisonnalité.
Alors, vous livrez quoi en particulier ? Qu'est-ce que vous avez d'excellent, de produits d'exception ?
Bon, alors, effectivement, je ne veux pas faire du chauvinisme, mais on a beaucoup de chance en France d'avoir des producteurs qui suivent malgré tout les saisonnalités avec une agriculture raisonnée. Donc, quand on parlait de bio, et on me dit qu'est-ce que tu penses du bio ? Je mets avant le bio le goût.
Alors, qu'est-ce que vous livrez en particulier ? Que vous demandent les hôtels ?
Bien évidemment, ils me demandent un choix assez varié. Ça va de la fraise, framboise jusqu'au poireau. Mais alors, quand on parle de produits de grande qualité qui ont du goût, bien évidemment, on va les retrouver sur un certain nombre de produits comme la fraise, comme la framboise, comme la tomate qui manque de goût depuis un certain temps. Et nous, effectivement, nous favorisons des producteurs qui travaillent, qu'on appelle en plein champ et pas du hors-sol. C'est-à-dire que
Vous allez directement les voir.
Voilà, on va directement les voir. Alors, j'ai une équipe d'acheteurs qui travaille avec moi. Et effectivement, la volonté, c'est de travailler avec des producteurs qui travaillent de manière raisonnée dans l'agriculture, qui suivent les saisons. Quand la saison de la fraise est terminée, on passe à autre chose, on passe à un autre produit.
Pour l'histoire, vous étiez 4 en 2011, aujourd'hui vous êtes 39 salariés, donc ça marche extrêmement bien.
Tout à fait.
Vous avez la plupart des palaces parisiens ?
Oui,
vous sortez de Paris aussi ?
On travaille avec tous les palaces parisiens. Alors, l'image de notre entreprise, elle ne se résume pas qu'aux palaces parisiens, évidemment que c'est quelque chose d'assez important, mais nous travaillons avec tous les restaurants, toutes les belles tables, petites, moyenne et grande
table. Et en dehors de Paris aussi.
Tout à fait. À Paris, en dehors de Paris dans le sud de la France très prochainement. Voilà.
Et même un corner aux Galeries Lafayette. Merci Yoni Cohen d'être venu nous présenter.
C'était avec plaisir.
Maison Colomb et c'est l'entreprise qui va bien, merci.
Il est 13h51.
Europe 1. Elisabeth Assayag.
Vous avez envie de vous engager dans la politique, mais vous n'osez pas. Eh bien, on a la solution. Avec Tous Élus, c'est une association et c'est la solution à la France qui bouge.
La France bouge sur Europe 1, tous les jours jusqu'à 14h et tous les jours juste avant 14h. Elisabeth Assayag, vous nous proposez la solution du jour. Et aujourd'hui, elle concerne tout le monde et toutes les générations.
Oui, c'est une association citoyenne et engagée qui fait tout pour que, justement, les citoyens s'engagent en politique, Paul Lassène.
Oui, on ne peut pas se tromper puisque cette association, elle s'appelle Tous Élus, ce mouvement citoyen très récent puisqu'elle a été créée en 2017. Son ambition, c'est de remettre le citoyen au cœur de la démocratie en proposant une nouvelle forme de gouvernance, une gouvernance qui appartiendrait plus au peuple. Et du coup, quoi de mieux que de pousser chacun d'entre nous à se présenter à une élection ? C'est en tout cas l'ambition de l'association avec le lancement de sa campagne Pourquoi pas toi ? L'idée, c'est de créer une espèce d'incubateur de politique, préparer tous les citoyens qu'ils souhaitent à être candidats aux élections municipales de 2020.
Et bonjour Camille Marguin.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes la cofondatrice de Tous Élus. Cette campagne avec ce hashtag « Pourquoi pas toi ?», elle vient d'où ?
Elle vient d'un constat qui est qu'il y a beaucoup de citoyens qui rejettent une partie des instances et des personnalités politiques, et notamment malheureusement les jeunes générations. Il y a 75% des jeunes qui ne sont pas allés voter au second tour des législatives. Les jeunes, c'est les 18-24 ans dans ce cas-là. Et donc, quelques citoyens de la société civile, on s'est dit qu'il fallait agir. Et on s'est demandé pourquoi nous-mêmes, on n'allait pas en politique, en fait. Pourquoi nous-mêmes, on n'allait pas défendre nos idées. Et il y a le gros frein de rentrer dans un parti politique avec soit l'image qu'on s'en fait, soit l'image qu'on nous raconte. Moi, personnellement, je n'y suis pas encore allée, jamais. Et du coup, l'idée, c'est de se dire il faudrait qu'on offre à des gens l'opportunité de rentrer dans le monde politique sans pour autant devoir s'enchaîner, entre guillemets, à un parti et avoir les premières briques d'une formation citoyenne.
Quand vous dites les gens, vous pensez à quel type de gens ? Les jeunes, les vieux ?
On est ouvert à vraiment tout le monde, mais ceux qui aujourd'hui sont le plus éloignés, d'après les études sociologiques notamment, c'est les jeunes, donc les moins de 30 ans, et notamment les jeunes des quartiers populaires et des milieux ruraux, les jeunes non diplômés. Voilà, et donc on s'est dit, il faut qu'on crée une formation, on ne l'a pas appelée comme ça, mais un peu Sciences Po pour les nuls. On n'a pas cette ambition, hein, c'est pas Bac plus 5, mais l'idée c'est de dire, il faut donner les clés, en tout cas à un maximum de citoyens, et aujourd'hui, on s'adresse essentiellement aux 18-30.
Et c'est quoi les clés, du coup?
Les clés, c'est déjà de faire de la vulgarisation sur qui peut se présenter et comment. Le droit de vote est connu, le droit de se présenter à une élection un peu moins. Et donc, nous, on s'est dit, juste expliquer qui a le droit de se présenter.
On leur donne les outils pour pouvoir s'engager.
On leur donne les outils et on vulgarise les règles. On a fait des micro-trottoirs où des jeunes nous ont dit, il faut avoir 35 ans minimum pour devenir maire, par exemple. Donc, nous, on dit, à partir de 18 ans, il n'y a même pas besoin d'être un citoyen français. Il faut être un citoyen européen, il faut déposer les listes avant telle date, etc. Donc on fait de la vulgarisation et ensuite on pousse un peu, on les aide à monter une équipe, faire de la communication, etc. Tout ça sans aucune couleur politique. On est vraiment apartisan, on défend et on rejette.
Une association de conseil pour s'engager en politique, en gros.
Ouais, on fait de la mobilisation et de la formation.
Frédéric, que dites-vous ?
Alors, on parle du fait que les jeunes se désintéressent à la politique, mais quelles sont les... Pourquoi, en fait ? Quelles sont les raisons ? Est-ce qu'on a les concepts, les mots ? Qu'est-ce qui est évoqué pour dire qu'effectivement, ils ne sont pas intéressés par la politique ? Et surtout, question qui suit, qu'est-ce qui fait que ce serait ou ce sera différent ? Parce que c'est un petit peu ça qu'on a envie d'entendre.
Ce qui est compliqué dans votre question, c'est qu'aujourd'hui, on mesure beaucoup l'abstention. Donc on dit, factuellement, on arrive à dire que les jeunes votent moins.
Il y a moins de mobilisation.
En termes de vote, par contre, il y a aussi plein d'études sociaux qui disent que les jeunes n'ont jamais été aussi engagés pour l'écologie ou pour d'autres sujets, que les jeunes n'ont jamais été aussi enclins à descendre dans la rue. On a vu Nuit debout pendant des mois, etc. Donc, on n'aime pas dire que les jeunes se mobilisent moins. Par contre, nous, on pense qu'en tout cas, ils ont moins l'opportunité ou l'envie de se présenter dans des instances politiques et de rejoindre ce qui sont aujourd'hui les instances qui décident et qui gouvernent. Et donc, nous, on espère que les jeunes, mais encore une fois, eux, mais pas que des citoyens qui ne se sentent pas représentés par leurs élus, qui en ont marre de leurs élus, se disent, pourquoi pas moi ? En fait, si j'en ai marre de ce qui se passe autour de moi, je devrais y aller. Et les élus, la plupart, sont très contents parce qu'ils disent, on aimerait bien que plus de citoyens participent à la vie politique. Donc en fait, c'est un espèce de vœu pieux qu'aujourd'hui, personne n'essaie de combler. Quoi.
Et peut-être que vous allez le combler on avec espère. Votre association Tous Élus. Merci Camille Marguin d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Merci Frédéric Mazella, notre coach. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Blablacar. Merci à vous, Paul. On se retrouve demain et absolument. Nous allons parler de la place des femmes dans l'entreprise à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes.